Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Pour commenter l'ensemble de l'actualité européenne, nous recevons maintenant Enrico Letta, secrétaire national du Parti démocrate en Italie, parti social-démocrate qui soutient le gouvernement de Mario Draghi. Bonjour monsieur Letta, vous êtes vous-même ancien président du Conseil italien, bon connaisseur de Bruxelles. Vous avez quitté d'ailleurs Paris où vous dirigiez l'école des affaires internationales de Sciences Po Paris. Alors on commence par votre pays, l'Italie, l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie. L'épidémie de Covid-19 a mis fin à l'obligation du port du masque à l'extérieur à compter du lundi 28 juin. Est-ce que c'est bien raisonnable? Comment vous jugez l'état de cette pandémie?
Bon, écoutez, il y a un bel esprit de reconstruction, d'optimisme, ce qui est très positif, je pense, après tant de périodes si tristes, si sombres. On sent que la reprise économique est là et surtout on a l'espoir que la vaccination, qui est en train de marcher très bien de façon très diffusée dans le pays, puisse éviter qu'il y ait des nouvelles vagues. Donc on sent l'optimisme, le gouvernement de Draghi est en train de faire un très beau travail, le plan de relance avec tout l'argent européen a été bien approuvé, soit au niveau national, soit au niveau européen. Maintenant, il s'agit de bien dépenser cet argent. Et il faut naturellement une grande cohésion des forces politiques et une activité économique qui soit très importante. Donc, oui, là, sur ce sujet, je vois l'optimisme, je vois une situation assez positive.
Alors, au dernier sommet européen en fin de semaine, une réforme des accords de Dublin a été poussée par le gouvernement Draghi. Ces accords qui renvoient les demandeurs d'asile au pays d'arrivée. Votre chef de gouvernement plaide, lui, pour une gestion plus équilibrée, efficace et humaine des migrations. Mais le pacte global pour la migration présenté par la Commission européenne en septembre dernier reste totalement bloqué. Pourquoi, selon vous ?
Bon, écoutez, c'est un des sujets sur lesquels l'Europe a fait le moins d'avancées. Sur beaucoup d'autres sujets, que ce soit l'Europe sociale, que ce soit Next Generation EU, que ce soit aussi les politiques industrielles de l'Union européenne sous l'impulsion de Thierry Breton ou de Paolo Gentiloni, ça marche. C'est sur ce sujet-là, le sujet des politiques migratoires, qu'on traîne. On est vraiment encore comme on était il y a 10 ans. Et je pense que c'est très négatif. C'est pour ça que les avancées qui ont été faites au Conseil européen sont positives, mais je pense qu'il faut beaucoup plus parce que le sujet est un sujet, est un défi énorme pour le futur de l'Union. Donc, il faut vraiment surmonter l'idée du traité de Dublin et il faut faire une politique migratoire. Même, il faut chercher d'avoir en tête une stratégie de migration légale. C'est la seule possibilité pour avoir les bons moyens pour arrêter l'immigration illégale.
En même temps, selon Frontex, les tentatives de franchissement sont à la hausse, même pendant le Covid. Vous voyez, en Méditerranée centrale, 15 000, autant dans les Balkans occidentaux sur une année, en baisse seulement à l'est de la Méditerranée. Et les pays d'immigration secondaire, comme la France et l'Allemagne, vous reprochent à l'Italie et puis aussi à la Grèce de ne pas contrôler suffisamment les frontières.
Oui, mais ce reproche doit être lié au fait que s'il n'y a pas de politique générale et s'il n'y a pas une politique avec le but de surmonter Dublin, à la asymétrie de cette situation pour laquelle les pays méditerranéens qui ont le plus de côtes sont des pays qui sont désavantagés avec une situation très complexe. Donc, ou bien on prend en charge cette différence qui est toute géographique, fait en sorte que la Grèce, l'Italie, l'Espagne aussi, Malte, soient les pays qui sont les plus touchés et on ne peut pas les laisser tout seuls. Il faut qu'il y ait une politique qui mette tous ensemble. Ça n'a pas été jusqu'à maintenant comme ça. C'est pour ça que, ou bien il y a un accord global et il y a des choix de politique migratoire de long terme, sinon ça risque, chaque fois qu'on fait une petite intervention, ça risque d'être simplement une intervention minimale qui ne résout pas le problème.
Alors vous avez commencé à parler rebond économique. L'Italie est assurée d'encaisser sous peu son premier chèque de l'Union européenne qui a approuvé son plan de relance financé sur un grand emprunt commun inédit. Une économie terrassée par la pandémie de coronavirus et en échange 191 milliards d'euros et de prêts et de subventions. C'est le premier bénéficiaire. Trouvez que c'est justifié?
Bon, je pense que c'est justifié parce que la pandémie a touché les pays de façon asymétrique. L'Italie, l'Espagne et puis la France ont été les trois pays les plus touchés. Donc c'est juste que l'Europe, cette fois-ci, à différence de ce que ça a été le cas il y a 10 ans dans la crise financière, donne l'impression d'une intervention avec solidarité. Maintenant, la clé est dans le camp de mon pays. Il faut qu'on soit capable de dépenser bien cet argent. On supporte le gouvernement de Draghi, on donne tout notre soutien parce que c'est le bon gouvernement qui soit capable, je pense, de bien dépenser cet argent et donc de faire en sorte, et là c'est le grand enjeu européen, de bien dépenser cet argent de la part de l'Italie, de l'Espagne et de la France aussi, qui sont les plus grands bénéficiaires, va donner une chance pour rendre Next Generation EU permanent. Donc rendre ce mécanisme d'eurobond, d'emprunt européen, un mécanisme permanent qui donne donc la possibilité d'avoir au niveau européen de l'argent pour des grands investissements, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant à cause du fait que le budget européen est très mince. Et avec un budget si mince, on ne pourra jamais faire les investissements capables de tenir tête aux Chinois, aux Américains. Notre futur est un futur de force si on a des investissements comme européens qui nous donnent la possibilité de tenir tête aux Chinois, aux Américains. C'est pour ça que la question de rendre le Next Generation EU permanent est la question clé des prochaines années.
Alors vous dites l'Europe a plutôt confiance en Mario Draghi, c'est l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, on ne l'oublie pas. Il n'empêche, Bruxelles épingle quand même les déséquilibres macroéconomiques excessifs de l'Italie, en particulier un niveau élevé de la dette et l'atonie persistante de la productivité. Et cette Italie n'a pas le droit à l'erreur, elle est attendue au tournant par les pays les plus frugaux comme les Pays-Bas et l'Autriche qui ont émis des doutes sur l'utilisation des fonds. Rome s'est montrée un peu inefficace dans le passé dans la gestion de ces fonds européens, vous le reconnaissez ?
Oui, ça a été le cas pour beaucoup de ces fonds. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement de Draghi a mis en place 3 réformes qui doivent être approuvées dans les prochaines semaines, voire mois, avant la fin de l'année. Ces 3 réformes, c'est la justice, la réforme fiscale et la question de la bureaucratie, et donc de comment simplifier le système. Ces 3 réformes sont essentielles pour éviter de faire les erreurs du passé. Nous aidons Mario Draghi à faire en sorte que ces réformes soient préalables à l'arrivée de l'argent européen et donc donnent la possibilité d'éviter le piège que vous citiez, c'est-à-dire le piège de ne pas bien dépenser cet argent et de donner donc une possibilité aux pays frugaux de dire « bon, c'est fini, c'est la dernière fois ». Non, nous voulons que ça marche et que ça donne la possibilité de continuer sur cette idée de Next Generation EU. Donc, on va faire tout le possible pour que ça marche.
L'entrée dans l'arène politique italienne de l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, avec une très large coalition, a redistribué un peu les cartes, avec une Angela Merkel sur le départ et un Emmanuel Macron confronté à des échéances électorales. Mario Draghi est devenu le nouveau dirigeant prometteur de l'Europe ?
Bon, je pense que Draghi est en train de jouer un rôle très important. Son rôle à la tête de la Banque Centrale Européenne et son rôle comme sauveur de l'euro pendant les 8 années de sa présidence lui donne une crédibilité, une gravitas qui est, je pense, très importante et qui est très importante aussi pour les prochaines réformes européennes. Il faut aussi considérer que dans les prochaines 2 années, on va discuter du futur du pacte de stabilité européen. Et je pense qu'une alliance entre l'Italie, la France, l'Espagne soit essentielle pour convaincre les Allemands à un pacte de stabilité qui ne soit pas exactement le retour au passé. Le pacte du passé n'a pas marché. Il faut un pacte qui ne soit plus seulement un pacte de stabilité, mais qui soit un pacte de soutenabilité. C'est pour ça que Draghi peut jouer un rôle très important avec Macron, avec les Espagnols et les autres pays qui poussent dans une direction qui soit de croissance pour l'Europe, d'investissement et d'intégration majeure.
Alors, Enrico Letta, le 18 juin dernier, vous participiez comme président de l'Institut Jacques Delors à une grande conférence qui a mis la nouvelle génération sous les feux des projecteurs. Depuis 4 promotions, l'Académie Notre Europe a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'Europe, les mobiliser, les écouter. Alors, comment rebondir après une pandémie mondiale quand on est un jeune Européen ? Des éléments de réponse avec Thelma, Vincent et Luc Brown.
Si j'ai l'Europe qui se ferme comme une main heureuse, les crises la mettent à nu, la mettent à mal.
Nous, l'Europe, banquet des peuples de Laurent Godet, a été monté avec 10 jeunes Européens. Comme un grand cri, ils expriment les crises et les espoirs de l'UE. Une jeunesse qui incarne cet avenir européen, comme cette étudiante française partie en Erasmus.
Devant moi, il y a une Italienne, un Espagnol, encore devant deux Allemands, puisque ce jour-là que j'ai su que j'étais partie française et que j'allais rentrer et rester européenne.
La génération dite du rebond se plaint d'être peu consultée par Bruxelles. Ils sont 60% à s'être abstenus aux européennes en 2019. À travers son académie, l'Institut Jacques Delors veut leur redonner le goût de l'Europe, explique son directeur Sébastien Maillard.
On est le vieux continent, mais ce n'est pas une raison pour ne bouder le fait que nous avons quand même des jeunes qui ont besoin de retrouver, après cette période aussi éprouvante, douloureuse, socialement, mentalement même, de solitude, d'angoisse ou de tristesse, de retrouver un sens au projet européen.
Le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, est venu entendre les inquiétudes des jeunes, notamment sur le plan de relance.
On parle aussi beaucoup de la jeunesse, mais est-ce qu'en fait ce n'est pas cette jeunesse-là qui, en fait, dans 10-15 ans, et leurs enfants qui vont devoir le rembourser ?
C'est pour ça qu'on se bat pour avoir ce qu'on appelle des ressources propres, des ressources nouvelles, qui ne font pas payer vous en particulier, mais des gens qui aujourd'hui profitent de l'Europe et qui ne payent pas, et qui sont les grandes entreprises du numérique, ou par exemple ceux qui polluent et qui exportent vers l'Europe.
Les jeunes peuvent continuer à donner de la voix à travers la conférence sur l'avenir de l'UE, grande consultation citoyenne au niveau des 27.
Alors, est-ce que c'est vrai, Enrico Letta, qu'on va donner la parole à ces jeunes inquiets pour le futur de la planète ? Est-ce qu'on ne va pas créer encore, avec cette conférence, notamment sur le futur de l'Europe, un comité Théodule, comme depuis 70 ans, pour les associer à une construction européenne dirigée d'en haut ?
Premièrement, je pense que l'expérience de l'Académie Notre Europe au sein de l'Institut Jacques Delors soit vraiment une grande, belle expérience qui démontre que les jeunes au centre du dessin européen sont le bon choix. Nous continuons à pousser. Je demande à tous les jeunes qui sont en train d'écouter de nous suivre, s'ils veulent, de candidater pour la promotion de l'année prochaine. Ça va être une aventure fantastique. En plus, car comme vous disiez, c'est l'année de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Avec quelque chose de plus par rapport au passé. Dans le passé, ce genre de conférence était toujours pour les diplomates ou pour les hommes de Parlement ou du gouvernement. Cette fois-ci, il y a une plateforme numérique qui donne la possibilité aux citoyens de participer et d'être protagonistes, de compter, de dire la leur et d'être capable de changer les choses. Donc nous, on va être là en tant que citoyens, nos jeunes vont être là. Je pense que cette conférence doit être prise au sérieux plus de ce que les dirigeants actuels sont en train de faire. C'est une grande opportunité pour le futur de l'Europe, pour dessiner une Europe des citoyens. Et j'espère que la présidence française de l'Union européenne de l'année prochaine va pousser dans cette direction et que les conclusions de cette conférence à la mi-2022 vont être des conclusions importantes, révolutionnaires, qui vont donner plus de démocratie à l'Europe et plus de participation citoyenne.
Alors, revenons sur l'une des conclusions côté diplomatique du dernier Conseil européen, le projet d'un sommet européen UE-Russie avec Vladimir Poutine a été plutôt écarté alors qu'il émanait de la France et de l'Allemagne. Peut-on avoir ce dialogue exigeant que voudrait Emmanuel Macron avec la Russie ? Est-ce que ça n'est pas une illusion à ce stade ?
Écoutez, je pense que la relation avec la Russie a changé complètement de rôle par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est une relation très tendue, très complexe. Il faut naturellement tenir la garde haute, mais je ne pense pas qu'il faut cesser de parler aux Russes. Donc je crois que l'idée d'un sommet, l'idée de tenir des relations, de parler avec eux, reste une bonne idée. Ça ne nous donne pas la possibilité, disons, de quitter nos valeurs et nos drapeaux. Il faut absolument être net et dur. Sur beaucoup de sujets, on est vraiment sur des positions différentes. Un des sujets principaux aujourd'hui, la Biélorussie, avec cette attitude intolérable de Loukachenko au cœur de l'Europe, d'avoir un pays qui frôle complètement les droits humains et l'état de droit. Mais je pense que continuer à parler avec la Russie est une priorité pour l'Union européenne.
Parlons des questions d'homophobie. L'Italie qui doit un peu balayer devant sa porte aussi parce qu'il y a un projet de loi qui vise à punir les actes de discrimination et d'incitation à la violence contre gays, lesbiennes et transgenres. Et le Vatican s'est formellement opposé à sa formulation, jugeant qu'il portait atteinte à la liberté d'expression des catholiques dans une très inhabituelle intervention diplomatique dans les affaires italiennes. C'est un mélange du temporel et du spirituel, Enrico Letta.
Ça a été une intervention inusuelle. Le président du Conseil, Mario Draghi, est intervenu au Parlement pour dire que l'Italie est un pays laïque, est un pays donc qui donne toutes les garanties. Et le Parlement va décider librement. De notre côté, nous poussons pour cette loi, pour que cette loi arrive dans le système italien. C'est une loi de, je pense, de civilisation positive. Donc nous allons faire tout le possible pour que cette loi soit approuvée dans un climat que j'espère soit le moins tendu possible, le plus concret et positif possible.
Bien entendu, l'autre grande polémique sur l'homophobie se trouve, encore une fois, j'ai envie de dire, du côté de la Hongrie avec M. Orbán, qui a fait adopter à son Parlement hongrois le 15 juin une loi visant à interdire la mise à disposition aux enfants de moins de 18 ans de contenu qui montre ou encourage la sexualité en elle-même, le changement de genre ou l'homosexualité. 17 pays membres, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, ont interpellé justement Viktor Orbán lors du dernier sommet. J'ai envie de dire, en fait, 17 sur 27 seulement. Est-ce que ça va changer d'ailleurs quelque chose à la politique de ce pays ?
Moi, j'espère que ça va changer quelque chose parce que franchement, la Hongrie est en train de changer le discours sur l'état de droit à l'intérieur de l'Europe. Et ce n'est plus seulement une question, mais ça devient une séquence de questions. Cette attitude contre les droits des personnes homosexuelles est, par exemple, insupportable. Mais ce n'est pas la seule. Il y a eu ce qui s'est passé contre les universités libres. Il y a toute l'attitude sur la justice. Bref, je pense que l'état de droit en Hongrie aujourd'hui est un élément de discussion sur lequel l'Union européenne doit prendre une position nette et dure. Donc ça a été très bien de la part des pays, des grands pays européens, de prendre cette position nette. Et je pense que sur cette dernière question polémique, on ne peut pas laisser que les choses aillent comme ça. Donc je pense que c'est une ligne rouge que Orbán ne peut pas franchir.
En attendant, vous le disiez, depuis 2018, la Hongrie est déjà vidée par des procédures pour violation grave des valeurs de l'Union européenne. Et pour l'instant, aucun pays européen n'a jamais été sanctionné sur ces questions-là. Plusieurs pays d'Europe de l'Est refusant de condamner la Hongrie.
Oui, parce que notre système européen donne la possibilité de lever des sanctions, mais il faut l'unanimité des autres 26. Et quand la Pologne tient une position qui est pareille à celle de la Hongrie, naturellement, on n'est pas en condition de le faire. Donc là, par exemple, il faut se poser le problème de comment changer cette règle. Et je pense que la conférence sur l'avenir de l'Europe, par exemple, qui doit changer beaucoup d'institutions européennes, doit intervenir sur ça. La question clé en Europe est celle qu'on ne peut pas donner le droit de veto à un seul pays sur ce qui se passe au niveau européen. Parce que ça donne toujours des résultats qui sont à la fin négatifs pour l'Europe. Donc ça touche vraiment l'avenir de l'Europe.
Alors, conformément, pour revenir à effectivement cette question de l'homophobie, à la décision de l'UEFA, l'Alliance Arena de Munich n'a pas été illuminée le mercredi 23 juin au soir lors de la rencontre Allemagne-Hongrie précisément, même si un militant a envahi la pelouse au moment de l'hymne national hongrois avec un drapeau aux couleurs arc-en-ciel. Le sport doit se mêler de politique ?
Moi, je pense que dans ce cas, c'est l'état de droit. Donc, c'est absolument juste qu'il y ait sur les grands principes qui sont violés une capacité même du sport de dire quelque chose qui soit quelque chose de définitif et de clair. Donc, je pense que ça aurait été bien de le faire.
Merci à vous, Enrico Letta, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et RFI. Vous restez bien entendu sur nos deux antennes pour plus d'informations.
La marche du monde.